Carrefour Banque et Assurance.
Quand vous me dites, la carte passe, invincible. Et oui, votre carte de crédit passe standard propose de nombreux avantages. Et en plus, profitez de 30 euros offerts en bon d'achat à la suite de sa première utilisation, au comptant ou à crédit. Et c'est jusqu'au 24 juin chez Carrefour Banque et Assurance.
Carrefour Banque et Assurance. Délai légal de rétractation de 14 jours, voire conditions en agence banque ou sur carrefour-banque.fr. Carrefour Banque, RCA Sévry, numéro 313 811 515, numéro Orias 07 031 939.
RMC, l'invité des grandes gueules.
C'est un surveillant pénitentiaire, il est représentant syndical, secrétaire général des Fausses Justice, Emmanuel Baudin, qui est avec nous. Bonjour, monsieur Baudin.
Bonjour.
On voulait discuter avec vous, et sûrement avec ceux qui nous écoutent, qui vont appeler au 3216, parce que depuis le début de la semaine, quand même, on s'interroge, on en a débattu sur cette fameuse année et demie que Mohamed Amra, qui est devenu l'ennemi public numéro un, a passé à la maison de la santé, à la prison de la santé. Prison de la santé, c'est en plein Paris, et on dit qu'on a sonorisé sa cellule. Et alors, l'année et demie 2022-2023, où on a sonorisé sa cellule, je rappelle, on a appris qu'il y avait eu 9 portables au total qui avaient été saisis, qu'il continuait de gérer son trafic de drogue, qu'il avait même dirigé en vidéo une action contre ses concurrents en conseillant les trajets à ceux qui opéraient en commando, qu'il avait organisé des enlèvements et des séquestrations, qu'il cherchait à acheter des armes de guerre du type même du calibre que ceux qui ont servi malheureusement à tuer vos collègues et à blesser les autres, qu'il se faisait livrer des repas 24 heures sur 24, qu'il avait une chicha à sa disposition et potentiellement qu'il avait même réussi à menacer les familles de gardiens ou quoi que ce soit. Il était sonorisé. En 2024, il passe à l'action, enfin un commando passe à l'action, soit pour le libérer en étant ses complices. Comment se fait-il qu'il a pu faire tout ça en prison pendant un an et demi, monsieur Baudin ?
Alors, il a pu faire tout ça en prison parce que malheureusement, on a un certain nombre de dispositifs qui nous permettent de limiter les choses. Mais la loi nous contraint et nous permet. Vous voyez, les fouilles à corps systématiques, avant les fouilles à corps systématiques, on n'a plus le droit de les pratiquer. Ensuite, il a pu faire ça surtout parce que l'administration pénitentiaire n'était pas informée de ce qui se disait lors de ses écoutes. Nous, la pénitentiaire, on n'a aucun élément. C'est le juge d'instruction qui a décidé la mise sous...
Mais vous savez que la cellule est sonorisée.
C'est... Alors, on le sait. Non, le surveillant, il ne sait pas. C'est les services pénitentiaires. Il y a quelqu'un qui vient, on fait croire à un problème dans la cellule. Le mec, il vient poser son truc. Le chef d'établissement, il ne sait pas pourquoi. On ne sait pas ce qu'on écoute. Et nous, on ne nous dit rien. Les surveillants ne savent pas. On ne dit
mais
pas aux surveillants...
Qui sonorise la cellule ?
C'est quelqu'un des services du renseignement pénitentiaire. D'accord. Mais qui ne... Les surveillants à l'établissement, ils ne le connaissent pas. On fait croire que c'est un
technicien. Mais la direction de l'établissement...
Elle ne sait pas pourquoi. Elle ne sait pas pourquoi le juge a demandé ça. Et ce n'est pas nous qui écoutons, ce n'est pas nous qui traitons les écoutes, et ce n'est pas nous qui pouvons donc... Si on avait... Enfin, c'est grave.
C'est-à-dire que pour vos collègues qui étaient en charge de Mohamed Amra et qui ont saisi des portables, parce qu'il y a 9 portables qui ont été saisis, ouais. Donc on peut dire que pendant un an et demi, ils ont quand même fait leur travail. Après, on parlera de la chicha mais, et de la livraison de la bouffe 24 heures sur 24. Mais ils ne pouvaient pas savoir précisément à qui ils avaient affaire.
Non, mais si on
la
avait
la dangerosité de l'individu.
Je vous dis, c'est scandaleux. Moi, j'ai entendu ces informations en rentrant de l'hommage le soir. Je rentrais à Paris. J'ai entendu les informations qui sortaient sur vos chaînes. J'étais abasourdi. J'ai aussitôt appelé le cabinet du ministre, demandé des explications. C'est très grave. Si on avait su ça, on aurait évité le drame. On n'aurait pas fait dommage national. Les collègues seraient en vie.
C'est-à-dire qu'on aurait changé sa catégorie pour le transport. C'est
bien sûr. Il n'aurait jamais été à Évreux. On l'aurait mis dans une prison plus sécuritaire. Il aurait été escorté carte, DPS. Avec il serait sorti avec les équipes régionales d'intervention qui sont le GIGN, pénitentiaire. On aurait mis tout en place. Des gens savaient et ne nous ont pas dit.
Alors, où a été le dysfonctionnement selon vous alors?
Ah ben, je pense que la police écoute. La police transmet au juge d'instruction. Si le juge d'instruction avait tous ces éléments et qu'il les a pas transmis à l'administration pénitentiaire, je pense qu'il faut qu'il rende des comptes.
Le juge d'instruction en charge du dossier Amra, c'est ça, notamment sur les tentatives de meurtre, etc.
Tout à fait.
C'est terrible de se dire que ce juge, en ne prévenant pas de la dangerosité d'un détenu, est responsable de la mort de plusieurs agents de l'administration pénitentiaire.
Si c'est avéré. Voilà, moi je suis toujours prudent.
Bien sûr.
Si c'est avéré, oui, vous avez raison.
Je suis abasourdi. Je suis abasourdi et je me demande quel serait l'intérêt de ce juge. Est-ce que c'est idéologique Est-ce que c'est dans un but particulier de continuer à écouter? Moi, je pense qu'on doit absolument protéger les agents de la pénitentiaire et que rien ne doit passer avant la sécurité des agents de toutes les forces de l'ordre, de la pénitentiaire, etc. Donc là, vraiment, je pense que si c'est avéré, on doit reposer la question de la responsabilité des juges. Bah,
si c'est avéré, on a l'impression que les agents de la pénitentiaire, c'est des objets, quoi. C'est uniquement des objets, et puis on va les utiliser en quelque sorte. On veut pousser les coudes le plus loin possible pour en tirer le plus grand profit sur le plan judiciaire, en se foutant éperdument des risques que l'on fait prendre à la famille.
Ou alors, il y a un autre raisonnement, pardon Joël, c'est de dire d'essayer d'éviter au maximum les fuites. Aussi, oui. Potentiellement, pour éviter qu'il y ait des surveillants qui le sachent et que, ouais. Que certains soient tentés de dire à Amra, voilà, garçon, t'es sur écoute.
Ouais. Je pense qu'effectivement, il y a ce que vous avez dit, essayer d'avoir, on parle beaucoup de drogue, de narcotrafiquants, donc faire tomber un gros réseau, ça peut être bon dans une carrière, mais les fuites, enfin, je veux dire, le passé en escorte 4, le DPS, il y avait les ERIS qui sont le GIGN pénitentiaire, on aurait pu assurer. Enfin, vous savez, moi je suis, chez nous, on dit, il y a Dieu, il y a les juges.
Ah, ça veut dire quoi comme
expression? Ça veut dire, vous savez, on a signé en intersyndical, un relevé de décision avec le ministre. Nos collègues on a fait l'hommage national. Avant l'hommage national, avant que nos collègues soient enterrés des obsèques, les deux syndicats majoritaires de la magistrature ont rejeté tout ce qu'on demande, nous, pénitentiaires. Mmh. Ils refusent les visios, le déploiement des visios. Ils refusent de venir dans les établissements pénitentiaires. Ces gens sont dans un précaré, se protègent, peu importe les risques qu'il faut encourir à la pénitentiaire et aux surveillants, alors qu'on est dans le même bateau.
Donc là, vous demandez, parce que vous demandez au garde des Sceaux de savoir précisément ce qui n'a pas fonctionné.
J'ai demandé, moi, au cabinet du ministre, de faire toute la lumière sur qui avait ces éléments, pourquoi ça n'a pas été transmis à l'administration pénitentiaire, et à ce qu'il y ait des responsabilités d'établi, pour nos collègues, pour leurs familles. Vous imaginez, nos collègues sont pas l'inhumation du collègue d'un des. Il y en a, on a encore un collègue qui doit les obsèques sont samedi. D'apprendre ça, on aurait pu éviter ce drame.
Non, mais ce qui est certain, c'est que pourquoi on déplace encore des prisonniers à l'heure de la visio, je veux dire.
Mais comment est-ce
même fou, c'est sûr. Pourquoi on va déplacer? On fait prendre des risques à la population, on fait prendre des risques aux agents judiciaires, on fait prendre des risques aux flics qui les protègent. On a des espèces de cortèges qui traversent Paris à plusieurs reprises.
J'ai vraiment beaucoup de respect pour votre profession, notamment parce que j'ai eu à visiter des personnes en prison. Mais j'ai rarement vu ce niveau de détente chez un détenu. La dernière fois vu ça, c'est dans un film de Pablo Escobar où la Colombie l'avait mis en prison pour du fake et l'avait mis en prison avec tous ses lieutenants où tout était aménagé et il pouvait continuer de diriger son trafic depuis la prison. Donc, je suis forcée de croire que le problème ne vient pas que des juges et il y a un tabou parce qu'on ne parle jamais de corruption. Je commence à m'interroger sur comment c'est possible que Deliveroo puisse venir en détente en prison, comment c'est possible qu'il puisse fumer tranquillement en prison et que vous ne soyez que les victimes de l'affaire. J'ai vraiment du mal à le croire. Quand vous allez visiter quelqu'un en prison, il faut voir quand vous êtes un visiteur ou une famille ou quoi, comment les visiteurs ou les familles peuvent être drastiquement contrôlés.
Dites-moi comment. Ils passent sous un portique où les téléphones portables ne sonnent pas, on ne les fouille pas à corps, on n'a pas le droit de les palper.
Très bien, mais on ressent quand on va visiter en prison, on ressent une certaine autorité et une rigueur.
Heureusement.
On sait qu'on arrive en milieu carcéral. Vous êtes d'accord avec moi? Expliquez-moi comment ce monsieur Amra, lui, sensation d'être en milieu carcéral, apparemment.
Ça veut dire que certains de vos collègues ont fermé les yeux.
Ne l'a pas.
Ou ont été corrompus.
Vraiment, je respecte votre profession et je sais qu'elle n'est pas facile parce que vous vivez
dans la corruption.
Mais là, que les juges, là, ça me dépasse.
Sur la corruption, je vais être très clair. Comme partout, il y a des brebis galeuses à la police, dans vos professions, il y a des brebis. Et on les condamne, on les licencie. Maintenant. Si les téléphones portables, ils peuvent rentrer par les familles, parce que vous savez qu'on peut les cacher un peu partout et dans des orifices personnels. Et comment vous faites, vous, à la porte d'entrée? Vous pouvez pas, ça sonne pas. Ensuite, si on n'a pas des brouilleurs efficaces, le détenu peut téléphoner la nuit, il est tout seul dans sa cellule. Vous n'avez pas un surveillant qui est en train de regarder derrière le ton toute la nuit. D'ailleurs, ce monsieur passait son temps à boucher l'œilleton, il a pris un certain nombre de séries pour ça. Ensuite, vous avez un système de drones maintenant. Ils se font livrer à la fenêtre. Donc on met des brouilleurs en place.
Il n'y a pas les filets anti-drones.
Non, vous avez des filets pour éviter sur les cours de promenade les projections de l'extérieur, mais vous avez aussi maintenant ce système de drone où le drone vient et se pose devant la fenêtre.
Mais non.
Mais si, je vous le dis. Donc on met,
Vous l'avez déjà vu ?
Bien sûr.
Oui.
Bien sûr. C'est malheureusement. Donc on déploie des brouilleurs de portables qui, quand ils sont mis correctement, fonctionnent très bien. C'est-à-dire que le téléphone, il sert plus à rien. Les brouilleurs de drones, mais ça a un coût.
Attendez.
Ça coûte très cher.
Attendez, Monsieur Baudin, parce que là, vous avez déjà été témoin de drones qui ont livré à la fenêtre de détenus en prison.
Bien sûr.
Et donc il a juste eu à se servir, à prendre ce qu'on lui avait livré par drone,
tout
et c'est reparti.
Tout à fait.
Mais comment vous l'avez découvert? Comment vous l'avez su?
Parce qu'on les voit aux caméras, parce que les agents dans les miradors les voient, parce que les collègues, voilà, c'est filmé.
Et alors ensuite, vous intervenez dans la cellule.
Bien sûr qu'on intervient, qu'on va. Mais vous savez, une fois que vous intervenez, parce que souvent, en plus, ce genre de personnage, la journée ne porte pas. Ce monsieur ne devait pas porter les portables sur lui la journée. Ils ont des mules, des victimes en prison, qu'ils menacent.
Mais qu'est-ce qu'ils font livrer par drone là, par exemple?
La nourriture, des téléphones portables, ce genre de choses.
Là,
là aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on peut pas dire que on est des passoires. Heureusement, on ne retrouve pas d'armes. Il y a pas d'armes, d'armes létales, d'explosifs. À chaque fois, on a. Mais effectivement, là, il faut nous donner les moyens. Et c'est dans le relevé de décision. Brouilleurs de portables, brouilleurs de drones, des chiens, la drogue. Demain, on veut qu'il y ait plus de drogue en prison. Mettons des chiens qui détectent la drogue à chaque entrée de famille.
Et les menaces ou le chantage que vous pouvez subir. Les menaces sur vos familles ou autres,
ça existe.
Ferme les yeux ou alors on va s'occuper de ta famille ou autre, ça existe.
Oui, il y a des menaces et donc quand on le sait, on déplace le collègue. Et en plus, les collègues, bien souvent, surtout sur Paris ou les régions de Marseille où les loyers sont très chers, ils vivent où? Ils vivent dans les banlieues, dans les quartiers où des fois ils croisent le voisin de porte est un ancien client. Donc on développe des choses, mais ça c'est un état, c'est la réalité des choses.
Ouais.
Donc il y a des choses à faire, mais c'est une volonté politique. Pendant longtemps. On a voulu acheter la police sociale et éviter que ça explose. Donc on a laissé faire un peu. Là, je pense qu'aujourd'hui, dans son levé de décision, depuis un petit moment, on commence. Là, le ministre s'engage sur des chiens, détection de drogue, sur les brouilleurs, sur les. Mais tout ça, il faut que ça se mette en place. Et puis après, il faut payer. Parce que ça coûte de l'argent.
Eh bien, écoutez, vous restez avec nous, M. Bonhomme, parce qu'on a encore des questions à vous poser. Vous représentez FO Pénitentiaire. On aura appris, donc, vous nous l'avez dit, certains détenus sont arrivés à se faire livrer. Par drone, directement posé sur la fenêtre. Et dans un instant, Ludovic, c'est un de vos collègues, il est du côté du Lot-et-Garonne, et il va nous donner un exemple de collègues, effectivement, qui ont déjà été menacés et même agressés devant chez eux. À tout de suite avec les Grandes Gueules.
RMC,
9h midi,
les Grandes Gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Et c'est Emmanuel Baudin, secrétaire général FO Pénitentiaire, FO Justice, pardon, qui est avec nous pour parler de ce qui se passe dans les prisons. On est un peu abasourdi, on continue de discuter là pendant la pause parce qu'on revenait sur tout ce que pouvait faire Mohamed Amra en prison.
C'est glaçant, si tu permets, parce que les témoignages qu'il nous livre, ça a tendance à nous montrer que la prison, loin d'être un lieu qui doit protéger la société, c'est un lieu qui la menace, quoi. C'est ça au fond, c'est que si tu commences à avoir des plaques tournantes qui se font à l'intérieur de la prison où on commandite des gestes crapuleux quoi, de l'intérieur où on menace les familles des agences de la pénitentiaire etc. Enfin la prison c'est une grenade découpillée quoi.
Il faut développer ces moyens de brouilleur. Enfin c'est comme les détenus qui peuvent aussi appeler leurs victimes de la prison avec le portable. Ça arrive aussi. Donc il faut développer. Mais c'est une volonté. C'est réellement une volonté politique. Il va y avoir des lois suite à ce qui s'est passé qui vont être proposées aux députés. On verra qui les vote. Mais on peut brouiller l'ensemble d'une prison et les détenus ne pourront plus téléphoner. On peut éviter la drogue dans les prisons. Alors, il faut s'attendre à ce qu'il va y avoir du remous. Mais si effectivement on veut que...
Ça veut dire quoi, y avoir du remous?
Mais parce que pendant des années, certains politiques ont laissé faire parce que ça achetait la paix sociale. Le mec, il fumait son coin.
Ça vous arrangeait peut-être aussi, vous, ça maintenait un certain calme, non?
Non, parce que nous, si on nous donne les moyens, oui, on nous a retiré les fouilles à corps systématiques. C'était un moyen d'éviter. Si on nous donne les moyens de travailler, et on le fait, parce que les agents, vous l'avez dit, on lui a saisi 9 portables. Dès que c'est bien qu'on fait notre travail et qu'on fait le maximum pour éviter. Mais les collègues font avec les moyens qu'ils ont. Et il faut pas oublier aussi qu'on parle de maisons d'arrêt. Maison d'arrêt, vous avez vu la surpopulation carcérale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les surveillants, ils gèrent seuls à un étage 150 à 180 détenus. Que voulez-vous qu'ils fassent? Si en plus, vous n'avez pas les douches dans les cellules, ils passent leur journée à passer les détenus à la douche.
Justement, Ludovic va en parler avec nous, surveillant pénitentiaire. On a déjà eu dans les Grandes Gueules. Bonjour Ludovic.
Bonjour.
On évoquait aussi le fait que vous, vos collègues, enfin quand je dis vous, les surveillants, soyez menacés. Du coup, ça met une pression en disant, si tu fais pas ce qu'on te dit... nos complices savent où est ta femme, où sont tes enfants, on sait où tu habites. Ça existe réellement, Ludovic, ça, oui.
Oui, alors d'abord, je voudrais dire bonjour à Emmanuel, que je connais très bien, et le sait lui aussi, par rapport à tous les communiqués syndicaux qu'on peut voir, des collègues qui se font menacer dans les établissements ou agresser devant chez eux ou à la sortie des établissements.
Vous avez des exemples précis ?
Il y a quelques années de ça, alors j'ai pas la date exacte, un ancien collègue de Fresnes avec qui moi j'ai pu travailler, puisque j'ai travaillé à Fresnes, qui s'est fait agresser devant chez lui, à coups de poing, coups de barre de fer certainement, et a eu des jours d'ITT derrière. Et ça, par des anciens détenus ou des complices de détenus qui téléphonent en disant voilà à quoi ils ressemblent, parce que avec les téléphones portables, comme le dit Emmanuel, c'est qu'aujourd'hui, en fonction des établissements, on peut être pris en photo et mis sur des réseaux sociaux.
Ludovic, moi j'ai une question, c'est que si j'ai bien compris, les transferts ou les transfèrements, c'est une nouvelle mission qui a été donnée à l'administration pénitentiaire. Avant, c'était la police qui le faisait, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Alors, de mémoire, moi je suis rentré en 2010, ça doit être depuis 2012 ou 2013, Emmanuel me corrigera si je me trompe, que l'administration pénitentiaire a récupéré ça.
Et deuxième sujet, c'est le refus des magistrats de voir les détenus en visio. Si j'ai bien compris, on pourrait éviter beaucoup de risques en évitant des transferts vers les palais de justice, en ayant des salles de visio dans les établissements pénitentiaires. Est-ce que c'est quelque chose qui est facilement faisable d'avoir ces salles de visio pour les détenus dans chaque prison ?
Alors, dans beaucoup d'établissements, et le mien actuellement, la salle de visioconférence existe.
Elle existe.
Mais maintenant, on s'en sert très peu parce que les magistrats veulent voir les détenus.
C'est un refus de magistrat.
Voilà, moi j'ai un exemple concret de collègues qui l'ont fait, c'est sortir un détenu à 5h du matin d'un établissement sur la région bordelaise pour l'emmener à Limoges pour être présenté à 9h à un magistrat, où le magistrat lui dit, non mais le magistrat dit voilà, il y a une nouvelle partie civile dans votre affaire, elle vous réclame 1 500 euros, est-ce que vous êtes d'accord, oui ou non, le détenu dit oui, et hop on repart, 5 minutes ça a duré, 6 heures de transport.
Tout ça doit être fait en visio, quoi. On travaille tous en visio.
C'est pas possible. Et Ludovic, est-ce qu'actuellement, alors, il y a une sorte de moratoire sur les transferts, en attendant que on statue sur ces histoires de visio, ou est-ce que les transferts continuent
Ah non, mais là, on a bloqué pendant 3 jours les établissements, et aujourd'hui, les transferts ont repris, les escortes, les transferts médicaux à l'hôpital, les transferts au tribunal ont repris comme si de rien n'était.
Merci Ludovic, merci de votre témoignage, vous aussi. Il y a quelques temps, des magistrats marseillais ont dit, de toute façon, ils ont quasiment dit la guerre est perdue. C'est-à-dire, ils ont plus d'armes, ils ont plus d'argent, pour le moment, on n'est pas au niveau. Et ça, vous le voyez aussi en prison, avec ces narcotrafics, ou pas, M. Baudin ?
Alors, moi, je dirais pas que la guerre est perdue, parce que sinon, on touche chez nous, et puis on attend, et on
laisse. Non, mais c'est un moyen d'alerter,
d'ailleurs. Oui, j'entends.
Ça.
Non, mais il y a des moyens, je vous dis, c'est des volontés politiques. Nous, on peut, demain, faire en sorte que quelqu'un en prison ne puisse plus appeler à l'extérieur et puisse plus utiliser un portable, ne puisse plus, donc, gérer tous ces trafics, ne puisse plus se droguer. C'est quand même l'intérêt. Enfin, quand on incarcère, c'est quelqu'un, c'est pour qu'on le soigne et qu'il ressorte meilleur que quand il est rentré. C'est une décision politique, c'est aussi un coût. Est-ce que nos concitoyens sont prêts? Parce qu'un brouilleur de portable, c'est 1 million d'euros. Hein, donc vous aménagez le nombre d'établissements, ça fait... Mais voilà. Mais après, je pense que oui, aujourd'hui, ces narcotrafiquants, et celui-ci en fait partie, ont des moyens disproportionnés. Ils ont beaucoup d'argent. Beaucoup. Et donc avec l'argent, on peut faire énormément de choses.
Y compris corrompre certains de vos collègues?
Y compris corrompre des
collègues. Comment ça se passe d'ailleurs quand vous avez des soupçons sur un collègue? Comment vous faites?
Alors il y a une enquête. Il y a une enquête, et les choses sont... Parce que vous savez, ils tombent toujours. Parce que le détenu, il balance toujours. Tous ceux qui sont corrompus tomberont. Si les collègues, ils le savent. Mettre le doigt dedans, vous êtes sûr.
Vous les prévenez, d'ailleurs.
Mais je leur dis, on peut.
Parce qu'on dit, les surveillants pénitentiaires, ils sont mal payés. Certains, on leur file un billet, puis sinon.
Il faut qu'ils aillent voir leur hiérarchie, qu'ils en parlent. On peut comprendre qu'un agent soit en difficulté, surtout qu'on les recrute jeunes, mais on peut comprendre qu'ils sont en difficulté, mais qu'ils mettent pas le doigt dedans. Qu'ils aillent voir sa hiérarchie et on trouvera des solutions.
Il y a un problème de recrutement aujourd'hui.
On a négocié une grande réforme avec le ministre, Force ouvrière. On va passer tous les surveillants en catégorie B, ce qui fait que demain, à compter du 1er janvier de cette année, un surveillant gagne autant qu'un policier. Même plus, puisqu'à la différence d'un policier, on se fait payer nos heures supplémentaires. Donc aujourd'hui, sur la feuille de paye, un surveillant va gagner plus qu'un policier sur la voie publique. Et ça a porté ses fruits, on n'arrivait pas à recruter depuis 10 ans, on remplissait pas nos schémas d'emploi, les postes donnés par Bercy. L'année dernière, on a rempli notre schéma d'emploi. Et cette année, on a énormément de gens au concours de surveillants. Et j'invite les gens, parce que ce métier a évolué énormément. La reprise des missions des policiers, c'est une aubaine pour nous. Ça permet de voir autre chose. Le renseignement pénitentiaire, c'est quelque chose d'intéressant. Aller les bracelets électroniques, faire du PSE, c'est important. Enfin voilà, ce métier est très riche. Et puis on travaille avec l'humain.
Justement, au plan de l'humain, c'était ma question. J'arrive pas à me figurer quelles sont les relations quotidiennes entre un gardien, un surveillant pénitentiaire et un prisonnier. On arrive à avoir de l'humain, comment ça se passe?
Oui, bien sûr, on arrive à travailler avec eux, on arrive à échanger avec eux. Alors c'est plus compliqué dans les maisons d'arrêt pour la raison que je vous l'ai dit, les maisons d'arrêt sont surpeuplées. Mais dans les centres de pénitentiaires, les maisons centrales, il y a des détenus qui passent 20 ans et on va travailler avec 20 ans ce détenu. Et puis il y a une partie qui est la réinsertion aussi. Enfin, l'idée c'est que ces gens ils puissent ressortir un jour, parce que la perpétuité, voilà, on sait que ça n'existe plus. Donc oui, il y a de l'humain, on échange, alors toujours avec une barrière. Il faut faire attention, mais faut évidemment, vous savez, beaucoup de détenus. Là, on a levé le mouvement. Il n'y a pas eu d'agression. Les détenus ont compris. Les familles ont compris. Ils ont trouvé ce drame. Voilà, ils étaient parce que le surveillant, il fait son métier.
Et quand, quand vous entendez dire la prison, c'est le Club Med. Si c'est pas le Club Med, c'est l'école du crime. Parce que les jeunes qui rentrent en prison, les petits dealers, ils ressortent, ils ont leur réseau, ils sont endurcis et ils sont tombés sous la coupe d'un caïd. Qu'est-ce que vous répondez? Un, Club Med, deux, l'école du crime.
Alors, le Club Med, je vous dis, dans les maisons d'arrêt, alors pour certains, les caïds. Enfin, je vous ai parlé des mules. Moi, je sais qu'il y a des détenus qui se sont suicidés parce que c'était des mules de caïd. Ils se sont suicidés en prison parce que leur famille était menacée à l'extérieur. Quand vous êtes six dans une cellule où vous avez des matelas au sol, où pour aller uriner la nuit, il faut marcher sur un de vos co-détenus. Non, alors il y a dans les centres de détention qui sont des prisons où les gens sont enfermés individuellement en cellule, c'est différent, en maison centrale. Mais le Club Med dans les maisons d'arrêt, aller à Fresnes, aller visiter Fresnes. Enfin, je vous dis, Fresnes, c'est sale, c'est il y a des rats, c'est la surpopulation carcérale, c'est compliqué pour les personnes détenues, pour les surveillants. C'est pour ça qu'on défend l'amélioration des conditions de détention des détenus, parce que c'est l'amélioration des conditions de travail des surveillants. C'est un tout. Alors bien sûr, on voit, et c'est pour ça qu'il faut aussi supprimer les portables. Quand vous voyez quelqu'un dans sa piscine, je comprends que nos concitoyens se disent comment il fait.
Qui est-ce qui organise la sortie à Versailles, la sortie karting qu'on avait vu il y a quelques... C'est incompréhensible pour les gens.
C'est incompréhensible, mais je vous dis, ça fait partie de la réinsertion.
Oh non.
Je veux dire, est-ce qu'on se dit, ces mecs-là... Enfin moi, j'ai travaillé en maison centrale, j'ai vu des gens qui n'étaient pas sortis depuis 20 temps.
Mais bien sûr.
Quand vous allez les sortir, les mecs, il faut qu'on puisse les emmener un petit peu dehors pour qu'ils voient qu'il y a de la circulation. Moi, je vous dis, ils ont la télé.
Entre l'emmener dehors et l'emmener au karting, il y a une différence, quoi. C'est incompréhensible pour le citoyen, quoi, d'emmener un prisonnier au karting. Wow,
depuis combien de temps il y est, ce prisonnier? Et quelle a été sa conduite?
Il a été sanctionné jusqu'au bout.
Les personnes d'intervention et probation qui font leur métier et qui est aussi de préparer la personne à la... Quelqu'un qui a passé 20 ans en prison, si vous sortez du jour au lendemain, c'est compliqué pour lui aussi.
Et l'école du crime, et la prison école du crime alors?
Alors, évidemment qu'il y a des gens qui vont toucher à la drogue pour la première fois en prison, parce qu'il y a de la drogue, parce qu'ils vont faire des rencontres et qu'ils vont s'allier d'amitié, peut-être projeter... On sait que sur les attentats de Paris terroristes, il y a eu des ramifications dans les prisons. C'est une réalité. C'est pour ça qu'il faut sécuriser les prisons, qu'il faut avoir aussi classifié les prisons, c'est-à-dire qu'il ne faut pas mélanger des voleurs de poules avec ce type de détenus. Il y a des mecs qui vont en prison, ils ont fait une erreur dans leur vie, ça peut arriver. Il y a aussi des gens qui vont en prison alors qu'ils n'ont rien à y faire.
Dans tous les cas, ce que je retiens, ce que vous nous avez dit, c'est que Mohamed Amra, on s'est planté. Il y a quelque part, alors qu'il était surveillé pendant un an et demi, il y a eu un défaut d'information qui a coûté la vie à vos collègues.
Voilà, je pense qu'on aurait pu encore avoir nos collègues parmi nous, et ça c'est pour ça qu'il nous faut des réponses. Et si tout se vérifie, il va falloir que des gens répondent, parce que c'est inacceptable et qu'on.
Est-ce qu'on n'a pas des politiques qui regardent ailleurs aussi? Parce que moi, ça m'évoque l'abandon de ce secteur depuis des années. On sait que l'état des prisons effectivement est déplorable. On l'abandonne, mais le fait aussi qu'on n'ait pas de brouilleurs, le fait qu'on n'investisse pas, c'est un tout ça, quoi. J'entendais ce matin sur l'antenne aussi, à propos des brouilleurs, on se disait, bon, il faut 1 million d'euros pour un brouilleur. Et alors? Et les brouilleurs qu'on a, ils sont pas adaptés parce qu'ils sont pas adaptés à la 4G. Mais t'imagines le retour qu'on a, quoi. Et moi, retard qu'on a.
Je vais petit peu plus loin. J'ai le sentiment, en voyant les tristes images où il n'y a pas de riposte par arme à feu, j'ai le sentiment que les agents ne se sont pas sentis soutenus par le politique et n'ont pas osé riposter. Est-ce que vous avez vraiment un soutien et il n'y a pas de crainte à un moment de sortir son arme s'il y a besoin?
Alors, l'enquête, je dirais, mais je pense que les agents ont riposté. D'accord. Je pense qu'il y a eu une tentative, mais les pauvres.
Et vous n'êtes pas armé en prison?
Alors à l'intérieur de la prison, pas d'armes létales. On a développé le pistolet à impulsion électrique, quelque chose sur lequel il faut se battre depuis des années. On a obtenu Dupont nous a filé les. On a obtenu là, on va développer les chiens d'appui, les chiens d'attaque.
Okay.
C'est des choses qu'on nous refusait. Il y a une avancée qui commence à se mettre en place. Il y a, je vous dis, dans le relevé de décision, les brouilleurs, les chiens, les après les voitures. Après, mais vous l'avez dit, c'est politique. Ouais. Soit le politique accepte de payer et on avance, soit il voilà.
Merci. Soit c'est votre sécurité qui est en jeu aussi et la nôtre. Merci d'avoir été avec nous, Emmanuel Baudin, FO pénitentiaire.